Je voudrais lire avec vous un texte. Dans l'évangile de Luc, Jésus insiste sur ce qui se passe une fois que l'homme meurt. Je me suis procuré un livre dernièrement sur, c'est une écrivaine qui a écrit un livre sur la mort. Et j'ai voulu voir ce que les inconvertis pensaient de la mort. Elle a écrit un livre épais sur tout ce que les philosophes et sur tout ce que les religieux on peut dire sur la mort. Et quand elle a parlé de Jésus, elle a fait de l'humour macabre, elle a dit « c'est dommage, le seul qui aurait pu nous aider, il a été crucifié ». J'ai trouvé ça bête. Le seul qui aurait pu nous aider, on l'a crucifié. Je ne sais pas si elle a lu les évangiles, mais si elle avait lu l'évangile, elle aurait compris que non seulement il a été crucifié, mais qu'il est ressuscité. Et tout ce livre est un livre désespérant. Un livre, mais vous savez, il y a des livres, quand vous les lisez, des fois il y a des phases sombres, des phases de plus joyeuses, mais là, tout le livre est triste. Tout est triste. Et je me demande bien, même si ce livre ne peut pas pousser des multitudes à sauter la vie. Alors que nous avons ce livre merveilleux, et quand Jésus nous parle de la mort, il nous en parle d'une façon sérieuse, et il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, il parle de deux hommes qui ont fait deux choix différents. Ces choix n'avaient rien à voir avec leurs conditions sociales, avec leur richesse ou leur pauvreté personnelle. Ils ont fait un choix, ni plus ni moins, parce que l'homme est libre de choisir, quelle que soit la condition dans laquelle il évolue dans la vie. Luc chapitre 16, verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. » De fin lin. Quand j'écoutais la chorale, je fais une petite parenthèse. Quand j'écoutais la chorale, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner le jour où des myriades et des myriades d'anges, des centaines de millions de chrétiens, dans un corps parfait, donc on aura une voix parfaite. Vous prenez compte, Madame Grondin, hein? Si ça va vous changer, hein? Mais bon, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on n'aura pas une voix merveilleuse? Dites-moi, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça va donner? Des millions et des millions, des myriades et des myriades glorifiés, en train de célébrer le Seigneur, et on sera habillé comment? De fin lin. Voyez? Mais voyez, cet homme, il est habillé de fin lin. Et ce n'est pas parce qu'on a l'apparence qu'on a véritablement le vêtement que Dieu veut que nous ayons. Alors cet homme, il était vêtu de fin lin et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Est-ce que c'est un péché de mener une brillante vie, une joyeuse vie? Non. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. N'oublions pas, c'est Jésus qui parle. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. » Est-ce que Jésus a eu raison de dire cette parole ? Hein, bien sûr, puisque quelques jours après, il est mort, il est ressuscité, et les hommes n'ont pas voulu accepter ce message. C'est Jésus, lui, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » qui a expliqué ce qui se passe une fois qu'un homme rend son âme. Notre âme ne nous appartient pas. Un jour, notre âme nous sera redemandée. Qu'avez-vous fait de Jésus-Christ ? Que faites-vous aujourd'hui de Jésus-Christ ? Comment le considérez-vous ? Ces chants extraordinaires sont presque pauvres à côté de la grandeur de ce qu'il représente. Ce n'est pas un privilège d'être sauvé, c'est une grâce incommensurable. Est-ce que vous le comprenez ? C'est plus qu'un privilège, c'est un honneur que Dieu fait à un homme de pouvoir, n'importe quand sur la terre, pouvoir s'adresser à lui. Est-ce que vous savez que chaque minute qui passe, vous pouvez dépendre de la grâce de Dieu ? Chaque minute qui passe, de jour comme de nuit, vous pouvez dire « Seigneur, fais-moi grâce ». Et cet homme n'a pas voulu le faire. Il l'a fait, oui, il l'a fait, mais c'était trop tard. Voilà ce que Jésus veut nous enseigner, qu'il y a un moment où notre cœur doit être touché. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la réaction des gens. Certains se moquaient lorsqu'on prêchait la parole de Dieu, lorsque Jésus lui-même prêchait. Les gens se moquaient, et pourtant certains avaient vu sa main se poser sur des malades, guérir des paralytiques. Il n'empêchait que des gens se moquaient. Lorsque l'apôtre Paul prêchait dans les villes qu'il a évangélisées, les gens se moquaient, malgré le fait qu'ils aient vu également sa bonne main, la bonne main de Dieu se poser sur des cas en difficulté. Le jour de la Pentecôte, il nous est dit que là, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, va rappeler toute l'œuvre de Jésus-Christ. Il va faire un bref historique de l'histoire d'Israël et il va leur parler que Jésus-Christ, on peut le lire ensemble, une partie de ce sermon, dans Actes au chapitre 2, il parle de Jésus de Nazareth. Ils avaient vociféré quelques jours avant, crucifie-le. Ils étaient de mèche avec les pharisiens pour que Jésus arrête d'apporter son message. Ils ne voulaient pas entendre parler de repentance. Ils ne voulaient pas entendre parler d'abandonner le péché. Donc ils ont préféré crier crucifie-le. Mais Dieu, dans sa compassion, voudra qu'ils réentendent encore le message au travers de l'apôtre Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. On va lire juste une partie du sermon, acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Voyez, mes frères, c'est ça. Écoutez les paroles. Le mauvais riche en enfer, il n'a pas écouté. Il avait une petite religion, pensant que ça lui suffirait. La petite religion, ça ne suffit pas. Même la grande, d'ailleurs, la religion ne sauve pas. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Oui, il le savait. Mais les gens, ils le savent que Jésus-Christ est venu sur la croix. Ils le savaient. Cet homme, livré selon le dessein de arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voyez, ces hommes qui avaient voté pour que Jésus soit crucifié, condamné de la façon la plus ignoble qui a existé et qui n'existera plus jamais, je crois, la mort par crucifixion. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est normal quand on a compris que Jésus est la vie, c'est pas la mort qui pouvait le retenir. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Jésus est mort mais son corps n'a pas connu la corruption. Comme par exemple le corps de Lazare qui quelques jours après sa mort était déjà en état de décomposition. Jésus n'a pas connu cet état. Il était sain, son corps ne pouvait pas connaître la corruption. Que son nom soit béni. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, vous avez voté sa condamnation, vous le saviez qu'il était le Fils de Dieu et vous l'avez fait mourir. Le mauvais riche, il a pensé que de faire un peu de bien aux pauvres, ça suffisait. Il était habillé de fin lin. Vraiment, dans la Bible, le fin lin, c'est les œuvres des justes. C'est écrit que la robe, dans l'Apocalypse, c'est écrit. C'est la robe des justes, ceux qui ont les œuvres même des justes. Mais voyez, Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, la preuve. Cet homme, il donnait l'apparence d'être chrétien parce qu'il faisait un peu de bien aux pauvres. Et vous savez l'histoire de ces chiens-là qui léchaient les ulcères. C'est Jésus qui emploie ça. On se demande pourquoi il dit ça. Vous savez, dans la Bible, les chiens, ce sont les païens. Et c'est une image que le Seigneur nous a laissée pour expliquer que les païens, ils sont capables de faire du bien. C'est ça que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça que ça veut dire. Que les païens sont parfois capables de faire du bien aux gens. Mais, attention, les œuvres ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est une conversion. D'ailleurs, regardez, à la suite de ce sermon, les gens sont touchés. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, cet après-midi. Est-ce que vous pouvez dire, oui, mon cœur est ouvert, mon cœur est réceptif, mon cœur est attentif, mon cœur est intéressé, ou est-ce que votre cœur est endurci ? À la fin de ce discours où il réalise qu'il faut faire attention à son éternité, l'apôtre Pierre n'y va pas de main morte. Il ne dit pas, oui, c'est le péché des païens, vous étiez dans l'ignorance. Non, il dit, vous l'avez crucifié, vous avez voté sa condamnation. Regardez ce qui se passe au bout d'un moment, parce que la parole de Dieu a le pouvoir d'attendrir notre cœur, comme ces cantiques d'ailleurs, qui ont le pouvoir d'attendrir nos cœurs. Regardez, acte 2, verset 37. Il leur dit ceci, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. » Dans une version, je ne sais plus laquelle, j'ai lu, « Ils eurent le cœur transpercé. » Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà la question qu'un homme doit poser une fois au moins sur la terre. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Lorsque Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, cet homme qui respirait le meurtre et la menace, partait à Damas, persécuter l'Église, Dieu l'a arrêté. Parce que Dieu savait que dans son cœur, il y avait quand même quelque chose. Il persécutait l'Église, il faisait ça pour Dieu, il ne savait pas dans l'aveuglement qu'il était. Il y a des gens qui critiquent les Églises, qui critiquent la parole de Dieu, et ils pensent aimer Dieu en même temps. Ça va loin cette affaire. Puisqu'il est même dit qu'à la fin des temps, ceux qui feront mourir les chrétiens croiront rendre un culte à Dieu. C'était ce qui se passait dans le cœur de Saul de Tarse. Mais voyez, Dieu l'a arrêté. Et cet homme, il a tellement été touché, malgré sa misère, que quand Dieu l'a désarçonné de son cheval, la première chose qu'il a dite à Dieu, c'est « Que veux-tu, Seigneur, que je fasse ?» Heureux êtes-vous si cet après-midi, vous êtes capable de poser la même question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Malgré votre religion, c'était des religieux, là. Je peux vous dire que le jour de la Pentecôte, les gens à qui s'adresse Pierre étaient des gens qui avaient une religion, la meilleure religion de l'époque, croyez-moi. Et toute belle religion qu'elle était, c'est quand même cette religion qui a poussé à la crucifixion du Seigneur Jésus. Que ferons-nous ? Leur cœur est touché, c'est plus le temps de badiner avec l'histoire d'un homme qui est mort au calvaire. Cet homme qui est mort au calvaire, il n'est pas que mort, il est ressuscité et il est toujours vivant. Et il règne au siècle des siècles. Et la Bible dit qu'il revient et qu'il va venir juger les vivants et les morts. Ce n'est pas le petit Jésus de Noël dont on est en train de parler. On est en train de parler du Créateur de l'univers, du Rédempteur du monde, qui a versé son sang et qui deviendra un jour le juge de l'univers. Et s'il n'est pas votre juge, vous aurez eu la joie de l'avoir pour avocat. Que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a des gens, quand on leur parle de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ? Vous voyez, c'est ça aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Est-ce que c'est une bonne question, ça ? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi ? Il y a des gens, quand ils disent, est-ce que Dieu peut me guérir ? Est-ce que Dieu peut me donner du boulot ? Est-ce que Dieu peut m'enrichir ? Est-ce que Dieu pourrait me donner de gagner au loto, comme on me demandait tout à l'heure ? Écoutez, je ne pense pas que c'est la bonne question. Dieu n'est pas notre serviteur. Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Et si vous faites à Dieu continuellement ce genre de questions, ça ne va pas vous aider. Je ne sais pas où en était ce mauvais riche, mais peut-être qu'il se servait de Dieu. Et quand il est mort, le verdict a été terrible. Et Jésus, qui est la vérité, a voulu lever le voile au travers de cette histoire qui n'est pas une parabole. Ce n'est pas écrit que c'est une parabole. Et même si c'était une parabole, elle serait une vérité exacte de ce qui se passe après la mort d'un homme. Après la mort d'un homme, les anges prennent son âme et le portent dans le paradis s'il a accepté Jésus comme sauveur Et s'il a poursuivi sa course en acceptant Jésus comme Seigneur jusqu'à la fin. Car la Bible dit que nous serons sauvés si nous persévérons jusqu'à la fin. Les anges ont porté Lazare. Il est mort, il n'est pas parlé de funérailles. Ah, le riche, lui, il a eu des funérailles. Et peut-être qu'on a dit, vous savez, le jour d'enterrement, je me souviens d'avoir été, quand je suis arrivé pasteur à Groyer, il y a une sœur de l'église, une sœur vraiment formidable. Elle, son mari était d'une méchanceté envers elle. D'une méchanceté comme ce n'est pas possible. Cette femme, elle a souffert pendant une dizaine d'années comme ce n'est pas possible. Et cet homme est mort d'un arrêt cardiaque. Et pour soutenir cette femme, j'étais à l'église où il a été enterré. Cet homme était le neveu de l'évêque. Et c'est l'évêque qui a parlé de lui. C'était vraiment un saint, quoi. Et je me dis, qu'est-ce que les hommes pensent d'un homme par rapport à ce qu'il peut faire au niveau social? Mais qu'est-ce que Dieu pense de votre âme? Qu'est-ce que Dieu pense de votre âme? Si vous deviez partir comme ce Lazare, si vous deviez partir dans l'éternité comme ce mauvais riche, de quel côté partiriez-vous? Partiriez-vous au paradis, porté par les anges, dans le sein d'Abraham? Ça doit être vraiment la fête lorsqu'un chrétien meurt, vous ne croyez pas? Est-ce que ça doit être bien quand on part, porté par les anges, dans le paradis? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous voulez y aller? Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Vous y pensez des fois? Est-ce que ça vous arrive d'y penser? Non? C'est bien ou c'est pas bien? C'est quoi pour vous, les TGV, les très grandes vacances? Non? Quelle bénédiction! Heureux l'homme qui est prêt à rencontrer le Seigneur. Heureux l'homme comme Lazare. Lazare, ça veut dire « Dieu est mon secours ». Il était pauvre, mais qu'importe. Il était plus riche que le mauvais riche. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'était qui le plus riche? Vous voyez comme quoi tout est relatif. Le plus riche, c'était Lazare. Le plus pauvre, c'était le riche. Parce que la richesse, si elle n'est pas spirituelle, elle sert à rien. Et peut-être c'est à cause de sa richesse qu'il n'a pas eu besoin de crier à Dieu. Mais c'est ce qu'il fait quand il est dans le ciel. Des gens disent parfois, « Oh, mais si c'est vrai, après ma mort, je demanderai pardon à Dieu. » Et voilà, c'est trop tard. Vous voulez faire la fin de la prédication? C'est trop tard. Vous savez quand ils ont descendu le paralytique, les quatre amis, et que Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens intérieurement ont dit, mais c'est pas vrai, mais pour qui se prend? Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Moi, c'est une parole qui m'a toujours bouleversé. Le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Et il avait dit, mais c'est quoi le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton lit, lève-toi et marche? C'est quoi le plus facile? C'est quoi le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou prends ton lit, lève-toi et marche? Pour Jésus, le plus facile, c'était de dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Mais de dire, tes péchés sont pardonnés, c'était pas facile. Parce que pour que les péchés de cet homme soient pardonnés, il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix. C'est pour ça que, vous voyez, là aussi, nous on croit que le plus facile, c'est de dire, tes péchés sont pardonnés. Non, c'était le plus difficile. Parce que vous savez ce que Jésus a dû subir sur la croix pour que les péchés d'un homme soient pardonnés. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il a accompli son ministère sur la terre. Il ne l'a pas fait dans le ciel. Il ne l'a pas fait en esprit. Il l'a fait de la façon la plus concrète qui soit. Il est mort sur le bois de la croix afin que lorsqu'un homme meurt, il parte soit au paradis, soit dans un lieu de tourment. Et ce mauvais riche exprime tous ceux qui, après la mort, ne se sont pas souciés des choses de Dieu et se retrouvent là, il lève les yeux vers le ciel, mais c'est trop tard. Il prie, il supplie, c'est trop tard. C'est ça l'enfer, c'est qu'après la mort, on ne peut pas se convertir. C'est comme ça, Dieu l'a voulu ainsi. Écoutez, Dieu est juste. Hein? Quelqu'un pourrait dire, ah mais non, mais Dieu aurait pu faire en sorte que, même après la mort, on puisse se convertir. Mais non, c'est comme ça. C'est sur la terre qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. C'est pour ça que c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il dira, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a des textes dans la Bible qui sont sérieux et sévères. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre ne leur a pas dit, eh bien, écoutez, vous avez une bonne religion. C'est la meilleure qu'il y a en Israël. Non, gardez-la. Non, il a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé, verset 38, au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Regardez la suite, si vous avez la Bible ouverte au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Si on disait ça il y a 2000 ans, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire aujourd'hui. Sauvez-vous de cette génération très perverse, corrompue. Est-ce que notre génération est perverse? Eh oui, notre génération est corrompue. Notre génération est en train d'attirer la colère de Dieu. Ce que je vous dis est vérifiable avec les paroles de l'Écriture. Les hommes sont en train d'attirer la colère de Dieu. Jésus le dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'homme est en train de se rebeller, on ne veut pas de Dieu. Après, quand il y a quelque chose, vous voyez comment l'homme il est tordu. Et c'est écrit ça dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui a dit que l'homme était tordu. Vous voyez comment l'homme est tordu. On ne veut pas de Dieu, on lui dit on n'a pas besoin de toi. Je vous ai dit l'autre jour de ce journaliste qui a fait des raisonnements sur France Inter, je crois que c'était, c'est pas grave, la station. Et il a dit, notre Père qui es aux cieux, reste-y. Vous voyez, on n'en veut pas de Dieu. On n'en veut pas de Dieu. Et quand il arrive quelque chose, on a le toupet de dire si Dieu nous aimait. On ne veut pas de Dieu. Mais si on ne veut pas de Dieu, eh bien il arrivera qu'il se passera ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais la patience de Dieu a des limites. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Et quand il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse », c'est parce que si l'homme ne se convertit pas, il connaîtra le jugement. Il connaîtra la condamnation éternelle. Il connaîtra les tourments éternels. Ce mauvais riche n'a pas été sauvé par sa religion. Il aurait pu être sauvé uniquement en acceptant Dieu comme son secours. Est-ce que Jésus-Christ est votre secours? Est-ce que vous pouvez tous dire cet après-midi, oui, Jésus-Christ m'a pardonné, il m'a sauvé, oui, on l'a crucifié, oui, notre péché, oui, je me suis moqué de lui, oui, j'ai participé à ce que la colère de Dieu vienne. Vous savez, quand les gens vivent dans le péché, ils participent à cette génération perverse, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non. Et cet homme va prier, cet homme va dire, mais j'ai mes frères, et puis si quelqu'un des morts y va, ils croiront? Non? Jésus a dit non, ils ont la parole. Quand Moïse et les prophètes, pour nous, c'est la parole. S'ils ne se laissent pas persuader par la parole, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il règne au siècle des siècles. Il a dit qu'un jour, il viendrait. Et il nous invite même à prier pour cela, puisqu'il a dit aux hommes, quand vous prierez, vous direz que ton règne vienne. Le règne de Jésus va venir. Serez-vous dans ce règne ou serez-vous dans les tourments éternels? Oui, ces chants que nous avons entendus de Gethsemane à Golgotha nous rappellent que le seul moyen pour être sauvé de cette génération perverse, que pour éviter la colère de l'agneau, il faut se repentir. Que chacun de vous se repente et que chacun de vous soit baptisé. Parce que le baptême ne sauve pas, mais il exprime un véritable engagement. Je choisis de m'engager avec Dieu. Je choisis d'avoir Dieu de mon côté. Je veux qu'il soit le sauveur de mon âme. Quelle grâce de voir ces histoires. Quelle grâce de voir cet enseignement, d'être porté par les anges. Depuis que la prédication a commencé, combien de chrétiens sont morts? Combien de païens sont morts? Il y a plein d'enfants qui meurent en Afrique toutes les 20 secondes de soif, de faim. Bien sûr que ces enfants sont sauvés. Est-ce que les enfants sont sauvés quand ils meurent? Bien sûr. Mais combien d'adultes qui sont conscients, qui savent ces choses? Ils le savent, mais ils ne veulent pas se repentir. Moi, j'ai un peu de religion. Comme des fois, on me le dit, ah mais vous savez, je ne vais pas à l'église, mais si je meurs, je veux passer par l'église. Vous voyez? Comme si en passant par l'église, on avait un passe-droit pour aller au ciel. Eh non, ce n'est pas l'Église qui sauve, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas les robes de fin lin qui sauvent, c'est-à-dire les béats, les bonnes œuvres, les bonnes choses que l'on fait. Comme certains disent, moi, je m'en tirerai d'affaire. Tous les jours, je fais ma béa. On l'entend, ça? Vous l'avez jamais entendu, ça? Tous les jours, je fais ma béa. C'est-à-dire ma bonne action. Voilà, j'essaie de me mettre Dieu de mon côté. Non, 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 non. Vous pouvez faire 10 000 BA dans votre vie. Vous pouvez donner tout votre argent, toute votre fortune. Si vous ne vous repentez pas, Jésus est catégorique, vous périrez. Alors je voudrais que l'on ferme les yeux et qu'on réalise que le salut, c'est quelque chose de sérieux. Que cette histoire que Jésus donne, c'est pour que les hommes puissent dire, mais oui, souviens-toi. Abraham l'a dit à cet homme, mais souviens-toi. C'est le mot que vous entendrez peut-être dans l'éternité. Mais souviens-toi, tu as entendu la parole de Dieu le 19 juin 2011 dans cette petite église à Toulouse. Tu as entendu qu'il fallait que tu te repentes, que tu demandes pardon pour tes péchés. Tu te souviens pas que tu as entendu ce pasteur qui s'appliquait à te dire qu'il te fallait te repentir, te convertir, te faire baptiser et me suivre jusqu'au bout. Souviens-toi. C'est ça que vous avez envie d'entendre ? N'avez-vous pas envie d'entendre, comme certainement le pauvre Lazare, qui était le plus riche des deux, entre dans la joie de ton maître. Qu'avez-vous envie de rencontrer ? Un juge ou un avocat ? Ça sera l'un ou l'autre. C'est une vérité. Tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez en déduire n'a aucune importance. Jésus est le véritable. Il est la vérité. Il est mort pour que vos péchés puissent être pardonnés. Il est mort pour que vous puissiez avoir pour salaire la vie éternelle, que vous puissiez avoir pour récompense la gloire de Dieu, la louange, l'honneur, lorsqu'il apparaîtra et qu'il viendra vous rechercher ou lorsqu'il viendra prendre l'Église. Oui, un jour, il y aura les noces de l'agneau et sur la terre, il y aura la colère de l'agneau. Dans quel camp serez-vous ? Où serez-vous ? C'est une question qu'un pasteur doit poser le plus consciencieusement possible à des hommes et à des femmes qui se retrouvent dans une église pour entendre parler de la prédication de la croix. La chorale a préparé un chant pour faire un appel. Nous restons dans le recueillement. Voilà, vous, à part la chorale, venez sur le devant, s'il vous plaît. Restez recueillis. Ce sont des moments qui peuvent changer votre éternité. Lazare représente tous ceux qui, à un moment donné de leur existence, ont choisi de se repentir, ont choisi de se faire baptiser, ont choisi de s'engager avec le Seigneur, ont choisi de dire « Pardon, oui, mon péché t'a crucifié ». Voilà les Lazare, ce qu'ils représentent. Peut-être quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui pendant ce chant. C'est un chant d'appel. Ne te précipite pas. Peut-être quelqu'un dit, mais cet après-midi, mais moi je suis un homme perdu. Je croyais que ma religion me sauverait. Je croyais au purgatoire. Le purgatoire est une invention religieuse humaine qui n'est pas biblique. Si le purgatoire existait, je ne vois pas pourquoi Jésus aurait eu besoin de mourir sur le bois de la croix. Le purgatoire est une invention satanique pour faire croire aux hommes qu'après leur mort, ils peuvent payer un peu par rapport à pendant des années pour pouvoir mériter la vie éternelle. C'est une invention. Après la mort vient le jugement. Ou la vie éternelle, ou la condamnation éternelle. Êtes-vous sauvé ? Êtes-vous perdu ? Donnez votre cœur au Seigneur. Dieu veut vous sauver. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pendant ce cantique, peut-être que quelqu'un veut que l'on prie pour lui. Soit il se lève à sa place, soit il vient sur le devant. Peut-être quelqu'un est malade dans son corps, dans son âme. Attendez-vous à la miséricorde de Dieu. Dieu est là pour vous parler, Dieu est là pour vous guérir, Dieu est là pour vous sauver, Dieu est là pour vous aider à vous préparer à le rencontrer. Oui, Dieu est là pour bénir, ça c'est clair. Lorsque deux ou trois s'assemblent en son nom, Jésus est au milieu de nous pour nous bénir, nous sauver, nous restaurer. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Jésus, bénis ce moment de prière. Tu vois ceux qui ont entendu ta parole, ceux qui encore ne sont pas convertis, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui ont besoin de revenir à toi. Tu sais, Seigneur, dans quelles conditions spirituelles se trouvent tous les auditeurs de cette salle. Alors, Seigneur, s'il te plaît, tu vois ceux qui ont le cœur touché, tu vois ceux qui ont le cœur ouvert, tu vois ceux qui ont le cœur fermé. Seigneur, ouvre les cœurs, que l'indifférence, que l'insensibilité soit bannie de ce lieu, que la dureté soit bannie des cœurs, et que tous les cœurs soient ouverts à l'amour que tu peux répandre dans le cœur d'un homme. Merci Seigneur Jésus.
Amen.